Encore ce soir, nous vous souhaitons à tous de nouveau, à tous la bienvenue particulièrement, aussi à ceux qui se sont ajoutés nouvellement. Que Dieu puisse vous bénir tous. C'est ma prière de tout mon cœur. Comme déjà dit, la chorale a chanté, je voudrais lire une parole de Dieu avant qu'ensemble nous puissions prier. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En allemand. Car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. En allemand, nous n'avons rien à voir à faire avec la nuit et les ténèbres. Vous êtes d'accord? Je pense qu'avec la nuit, avec les ténèbres, avec le péché, avec toutes sortes de mal, le peuple de Dieu ne veut rien avoir à faire. Ça, c'est quelque chose de glorieux. Ne rien avoir à faire avec cela. Ensuite, au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous le voulez, mes bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons veiller et être sobres, car nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant. Il veut engloutir qui pourrait engloutir, ou alors dévorer. Je vais vous dire, il ne cherche pas les incroyants, il cherche les croyants, il cherche à dévorer les croyants. Mais la Bible nous dit, nous venons de le lire, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, restons sobres en allemand, ayant revêtu la cuirasse de la foi, oui, et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que lors de son retour, nous soyons en train de veiller, soit que nous soyons déjà endormis, nous vivions ensemble avec lui, en allemand. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal par le mal. Mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous les hommes. En allemand, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit en vous. Ne laissez pas l'esprit s'éteindre en vous en allemand. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui aussi qui le fera. Remerciez soit notre Dieu pour de telles paroles glorieuses que nous pouvons nous représenter devant les yeux ce soir. Je crois que nous devons mettre ces choses en pratique. Si Paul ici demande aux croyants de rendre grâce en toutes choses, dans n'importe quelle, en toutes circonstances, et que cela est à l'égard pour nous la volonté de Dieu, et nous devons le faire, particulièrement dans ce temps de la grâce, pour sa sainte et précieuse parole. Et nous pouvons dire que jusqu'à maintenant, il nous a bénis merveilleusement et rendu heureux de manière merveilleuse. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour cela, mes bien-aimés? Je crois que nous nous levons et ouvrons tous nos bouches et nos cœurs et voulons ensemble remercier Dieu. Dieu fidèle, nous te remercions d'après l'étude de ta grâce, de ce que nous pouvons de nouveau être ici rassemblés pour t'apporter l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration. Seigneur, ta parole nous dit que nous devons en toutes circonstances, en toutes choses, t'apporter la reconnaissance, la louange, l'adoration. Que nous ne puissions pas, Seigneur, manquer de le faire. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la reconnaissance de nos bouches à tous et de nos cœurs à tous. Nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Le troupeau que tu conduis. Seigneur Dieu, fidèle, tu connais notre cœur. Seigneur, nous ne sommes pas venus parce que nous ne savions pas où passer le temps. Nous sommes venus pour être bénis de toi et pour être vivifiés de toi nouvellement et de recevoir quelque chose de nouveau, une nouvelle nourriture. Et tu nous as, jusqu'à cette heure, richement garni la table. Nous t'adorons ensemble, tu nous as servi et nous te louons ton merveilleux nom. Je n'ai âgé, nous te donnons à toi l'honneur et louons ta grâce. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur. Sois avec nous. Bénis avec nous ton peuple dans ton entièreté. Je te demande. Et je te demande aussi, bénis aussi notre frère, continue à le bénir. Pour qu'il puisse continuer à nous, pouvoir continuer à nous apporter ta parole. Fortifie-le. Fortifie-le dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Et fortifie-nous. Bénis-nous. Ouvre nos yeux, nos oreilles. Pour que nous puissions écouter et recevoir. Pour que nous puissions recevoir tout ce que tu as à nous dire. Oh Dieu. Nous t'adorons, nous exaltons ta grâce ce soir, pendant cette heure. Loué soit ton merveilleux, glorieux nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Peut-être que nous chantons un chœur, ou bien deux. Le Seigneur est ma force et mon cantique de louange. Il est mon héritage, il est mon partage. Le Seigneur est ma force et mon cantique de louange. Le Seigneur est ma force et mon cantique de louange. Il est mon salut. Le Seigneur est ma force et mon cantique de louange. Loué et remercié soit le Seigneur. Nous sommes de nouveau reconnaissants de ce que nous pouvons être ici et écouter la parole. À chaque fois, je me le souhaite que je puisse une fois m'asseoir, rester assis. Et malgré tout, nous devons, tant que le Seigneur nous laisse ici, le faire, faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Et le fruit de ce travail sera à trouver dans la gloire, dans l'éternité. Le travail est parfois plein de fatigue, mais il y a un cantique qui dit « Glorieux est la rémunération ». En ce jour, quand le Seigneur reviendra prendre les siens, toute la fatigue aura servi à quelque chose. Ce n'est pas seulement ainsi que nous qui annonçons la parole, nous faisons un sacrifice, mais vous aussi vous faites un sacrifice. Vous prenez le temps, vous ne regardez pas la fatigue pour entreprendre de longs trajets pour venir écouter la parole de Dieu. De la profondeur de mon cœur, que vous puissiez entendre, moi et nous, nous l'estimons que vous veniez pour écouter la parole de Dieu. Et j'espère que le Seigneur, dans chaque réunion, pour chacun, aura quelque chose. Jusqu'à maintenant, ça a été ainsi. Et cela doit rester ainsi. Que dans chaque réunion, il y a quelque chose pour chacun. Bien sûr que quand ce sont des heures d'enseignement, alors on ne peut pas prêcher à haute voix, avec toute puissance. Donc on doit lire un verset biblique l'un après l'autre et ouvrir. Et ça aussi, c'est bien sûr très, très, très important. D'aller d'écriture en écriture, tout à sa place. Des réunions vivantes avec une annonce puissante de la parole et aussi les réunions dans lesquelles nous observons la parole de Dieu et pour avoir un fondement ferme que rien ne peut ébranler, que rien ne peut ébranler. Remercie-toi le Seigneur pour la sainte parole qu'il nous a conservée. Et vous savez ce que frère Branham dit, les gens, particulièrement quand ils étudient la théologie, alors ils commencent les problèmes et ça ne cesse jamais. Les problèmes ne peuvent jamais être réglés parce qu'ils se perdent dans la signification de mots qu'ils essaient de comprendre et de sonder avec leur compréhension humaine, leur pensée humaine. Et ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas, est-ce que quelqu'un maîtriserait le grec ou bien l'hébreu ou bien l'araméen ou bien connaîtrait le chinois. Ce qui est important, c'est que nous puissions combiner ce contenu inspiré par l'esprit à un langage inspiré par l'esprit comme Paul l'écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 12. Et que ainsi, le mystère de Dieu nous soit révélé par l'Esprit de Dieu. C'est la chose la plus importante. Ce soir, nous avons la continuité, la suite plutôt, en ce qui concerne le sujet sur le jour du Seigneur et ce qui est lié à cela. Et hier soir, nous avons déjà vu plusieurs choses sur ce sujet, observé plusieurs choses. Avant de lire dans la Bible, j'aimerais, dans la dernière page du premier sceau, j'aimerais lire la déclaration suivante. Frère Branham dit la chose suivante. Notez que dans le même temps où cela se produit, ou plutôt juste avant que cela n'arrive sur la terre, pendant que ces dénominations se disputent et discutent au sujet de leurs différences de credo, Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole avec un message destiné à nous ramener à la parole, à ramener le cœur des enfants de Dieu à la parole de Dieu originel et à la foi des pères, afin de faire descendre la puissance du Saint-Esprit au milieu du peuple. Donc en allemand, il fait descendre la puissance du Saint-Esprit par l'annonce de la parole au milieu du peuple et la puissance qui élèvera l'Église au-dessus de ces choses et la faire entrer. Une parole merveilleuse. Vous pouvez tous la lire dans la dernière page du premier saut. En allemand, c'est la page 61 en bas et 62 en haut dans le livre Les Sept Sceaux. Nous voulons, au nom du Seigneur, avec une profonde crainte, nous approcher de la parole et voir ce que le Seigneur, par elle, va nous dire. Le frère Rousse a déjà, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, lu, et nous reviendrons, Dieu voulant, encore à cela. Nous voulons commencer avec 2 Pierre, le premier chapitre, avec le verset 19 et aussi le verset 20. Et continuez. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, il lit le verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ici, les choses suivantes sont dites en insistant. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Et ensuite, en vous annonçant la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite, nous sommes témoins de sa majesté. C'était ainsi que le Seigneur Jésus avait rassemblé des disciples autour de lui et c'est à eux qu'il parlait et qu'il disait, « Vous êtes mes témoins. » Ils avaient marché avec lui, ils étaient allés avec lui, voyagé avec lui, ils ont vu son ministère, ils ont tout vu et ils ont été témoins oculaires, témoins iroculaires. Ils pouvaient, avec la pleine conviction, dire ce que Dieu voulait dire par eux. Au verset 20, il est écrit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, quelle parole merveilleuse! Pas d'interprétation particulière, pas de prophétie selon la volonté de l'homme, mais d'être introduit dans la parfaite volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, l'inspiration de sa parole, être soumis sous l'inspiration de son esprit, et là où Dieu arrête de parler, nous arrêtons aussi de parler, et là où il commence à parler, nous commençons à parler aussi. Là où il se tait, nous nous taisons, et là où il parle, là nous parlons. Là où il... nous restons avec l'aide de Dieu dans le cadre de la parole de Dieu. Revenons à Marc, allons à Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, ici dans le premier verset, de manière très merveilleuse, il est écrit, des paroles merveilleuses sont écrites que nous voulons aussi recevoir dans tout notre cœur. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, il est parlé du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce commencement conduit tout de suite à la parole du prophète Malachie, le chapitre 3, le verset 1. Et directement, par la suite, sans commencer et introduire, il passe à la parole d'Ésaïe, chapitre 40. Et ces deux versets bibliques sont placés au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, le commencement était selon la parole prophétique. Et Pierre écrit, et nous tenons pour d'autant plus certaines en allemand, et nous possédons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une flamme qui brille dans un lieu obscur. Cela a plu à Dieu d'une manière particulière de placer chez le chandelier la parole prophétique. Dans cet âge, retenons cela dans nos pensées. Tout doit se dérouler et doit aller comme Dieu, par la bouche de ses serviteurs, les prophètes, l'a promis. De l'Ancien Testament, nous avons hier presque lu tous les versets bibliques jusqu'au dernier, c'est-à-dire Malachie, et là-bas les derniers versets au chapitre 4 en français. Ici au verset 5, Malachie 4, verset 5, Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Jusqu'ici cette parole. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Vous savez que le ministère de Jean s'est déroulé il y a 2000 ans d'ici, presque 2000 ans d'ici, et le jour terrible et redoutable de l'Éternel n'est pas encore apparu. Et nous devons constater pourquoi est-ce que le Seigneur, dans un seul et unique verset, devait désigner Jean en tant que Élie. Écoutez, je l'ai dit, devait désigner Jean Baptiste en tant que Élie, parce que la première partie, que nous venons de citer dans Malachie, s'est accomplie dans son ministère, quoique il était le prophète selon Malachie 3, verset 1, c'est-à-dire cette partie, Malachie 4, verset 5, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Cette première partie a trouvé son accomplissement dans le ministère de Jean-Baptiste. Mais il n'était pas le Élie qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, ce grand jour et redoutable, comme déjà dit. Sinon, la terre, depuis longtemps, aurait dû déjà aller en flammes et brûler. Regardez, remarquez comment les Écritures le disent de manière exacte. Lisez avec moi dans Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1, peut-être à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, verset 14, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il ne sera point, et il sera, pardon, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de ses fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera. Finalement, c'est lui qui marchera devant Dieu avec l'Esprit, en allemand, dans l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et à cela, la parole prophétique de l'Ancien Testament cesse parce que c'est seulement cette partie-là qui s'est référée à Jean-Baptiste de la prophétie de l'Ancien Testament. La deuxième partie, que le cœur des enfants seront ramenés de nouveau à celui des pères, a été accomplie par le ministère que nous avons vécu dans que nous avons pu voir dans notre époque. Je vais vous donner toutes les écritures. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, avant le temps. Ne vous inquiétez pas. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, nous lisons à partir du verset 19. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ?» Il déclara et sans restriction et affirma, « Je ne suis pas le Christ. » Verset 21. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il dit, « Non, je ne le suis point. » Avez-vous tous lu avec moi? Donc, vous pouvez continuer à lire avec moi, c'est-à-dire le verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ils n'ont pas pu comprendre autrefois que un contenu prophétique, deux choses prophétiques peuvent être écrites dans le même verset et que leur accomplissement peut être éloigné de 2000 années l'un de l'autre. Et on trouve la même chose dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 4, alors que le Seigneur Jésus, autrefois, n'est-ce pas, avait ouvert le rouleau du prophète Ésaïe et avait lu. Ici, il est écrit dans Luc, le chapitre 4, verset 17. Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, notre Seigneur, au milieu d'un verset, vous pouvez le constater dans l'Ancien Testament, c'est arrêté de lire dans le prophète Ésaïe, le chapitre 61. Il est tout de suite écrit après, pour, au verset de pour publier une année de grâce de l'Éternel et ensuite, et un jour de vengeance de notre Dieu. Le jour de la vengeance, le jour du Seigneur, le jour qui brûlera comme un four, le jour grand et redoutable. Le Seigneur ne pouvait pas à l'époque déjà le publier dans Luc 4, car à l'époque, c'était le jour du salut, le jour de l'année de la grâce qui avait commencé. Et là, nous voyons la perfection absolue et la conduite du Saint-Esprit en tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et aussi son accomplissement dans le Nouveau Testament. Et comment est-ce que cela a trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament et continue à trouver son accomplissement dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 9, nous lisons Matthieu 11, verset 9. Matthieu 11, verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il était écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Celui qui veut ouvrir cette écriture, il a seulement besoin de nouveau d'ouvrir Malachie chapitre 3, le verset 1. Si maintenant, directement, nous voulons aller à Matthieu, ou bien nous allons à Matthieu chapitre 17, là nous lisons à partir du verset 10, Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses dans l'état primitif. Et je ne continue pas à lire. Je le fais exprès de m'arrêter. Je fais exprès de m'arrêter ici. Et vous n'avez pas non plus besoin de continuer à lire. Voilà ce que le Seigneur a dit. Après que le ministère de Jean-Baptiste était terminé, déjà depuis longtemps. Ici, il dit, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il parle de ce ministère au futur maintenant. En faisant mention du ministère de Jean-Baptiste, justement parce que la première partie de la dernière promesse dans le prophète Malachie avait trouvé son accomplissement dans le ministère de Jean-Baptiste, c'est pour cette raison que notre Seigneur ici dit au verset 12, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Nous voyons que notre Seigneur très exactement a utilisé les paroles adéquates, justes, telles que Jean l'a fait dans Jean 1, Jean-Baptiste l'a fait, telles que Gabriel l'a fait, alors qu'il faisait l'annonce à Zacharie dans Luc 1. Donc, tout est correct et à sa place. Est-ce que vous pouvez tous comprendre ça jusqu'ici? Oui, tous. Que d'un côté, le ministère de Jean-Baptiste, Malachie 3, verset 1, mais parce que la première partie, c'est-à-dire le cœur des pères, doit être amené aux enfants, et ça, frère Branham l'a dit aussi clairement, le cœur des pères de l'Ancien Testament, les ramener au cœur de ce que les enfants, de ce qui était préparé pour les enfants de Dieu, de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Maintenant, à la fin, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de nouveau ramenés de tout notre cœur, c'est-à-dire le cœur des enfants de Dieu est ramené de nouveau à la foi originelle qu'avaient nos pères du temps des apôtres. Tout est correct. Il faut seulement que cela soit reconnu. Mais cela aussi devrait une fois être dit. Ça n'a pas d'importance combien d'écritures nous lisons et les disons aux autres. Celui à qui Dieu ne le révèle pas, cela reste obscur, cela reste caché. Là, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas en notre pouvoir de révéler cela. Et à quelqu'un, et je sais de mes voyages internationaux, il y en a très peu qui croient le plein évangile, qui ne reconnaissent pas frère Branham en tant qu'un homme de Dieu, et qui ne respectent pas frère Branham, il n'accepte pas en tant qu'un homme de Dieu particulier. Mais quand cela arrive, qu'il est prétendu que c'était celui-là dont il est écrit, donc pas prétendu, mais qu'il est dit, et qu'il devait venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, cette promesse, avant le grand jour et terrible et redoutable. Alors, tous les chevaux deviennent sauvages. Ils ne peuvent pas le supporter. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que ils veulent continuer à marcher dans leur propre voie et rester dans leur organisation et ils ne sont pas prêts à, en eux-mêmes, recevoir une correction, bien devoir se corriger. C'est peut-être la raison qu'ils poussent, ils repoussent, ils rejettent cette pensée. Pour nous, cette pensée est précieuse. À quoi est-ce que ça me sert de reconnaître le plus grand homme de Dieu, si par lui, les prophéties publiques ne seraient pas accomplies? Alors, nous n'aurions pas eu d'orientation. Alors, nous pourrions nous laisser venir un grand homme de Dieu et faire un grand programme par lui? Non. Pour nous qui avons reconnu cela, c'est justement la chose la plus précieuse. Ce qui est plus précieux pour nous, c'est ce qui est pour tous les autres une pierre d'achoppement. Et cela est la même chose pour notre Seigneur. Il était un rocher de scandale pour les uns et pour les autres, le rocher du salut. Les uns se sont heurtés à lui, c'est-à-dire dans leur désobéissance contre la parole de Dieu, et les autres se sont battus sur lui, ont été battus sur lui. Ça a toujours été ainsi dans toutes les époques, et c'est comme ça que ça restera. Mais ensuite, nous avons cette promesse merveilleuse dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, ici, à partir du verset 16, peut-être déjà, oui, et bien sûr aussi, d'une manière particulière, à partir du verset 20. Peut-être que nous lisons directement le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. En allemand, le oint destiné pour vous, Jésus-Christ. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous voyons que cette parole exprime des choses qui sont plus que claires, qu'il y a qu'un temps de rafraîchissement vient dans le contexte du temps du rétablissement de toutes choses. Les deux vont ensemble, dans le même contexte. Et nous croyons que le Seigneur n'a pas seulement accordé un message de restauration de toutes choses, mais que il, oui, qu'il a d'abord envoyé sa parole prophétique avant son plan prophétique, avant ses intentions prophétiques, afin que la foi par sa parole pour ce qu'il a promis soit produit en nous et qu'un désir survienne en nous pour qu'il puisse accomplir toutes ces choses en nous. Et si nous lisons cette expression ici au verset 21 de acte 3, du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc lisez avec moi ensuite Apocalypse chapitre 10 verset 7. Bien sûr connu de tous et malgré tout, toujours de nouveau et frais et une confirmation que l'Esprit de Dieu a conduit toutes choses et dirigé toutes choses. Ici, il est écrit, Apocalypse chapitre 10, verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » comme message de joie en allemand, comme message de joie. Donc, nous voyons comment est-ce que l'harmonie est parfaite. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes des temps anciens, comme dans Actes apôtres. Et c'est par ce ministère que tout doit s'accomplir. Et ça, nous le croyons aussi de tout notre cœur. Ce ministère n'est pas à une personne, du moins pas à une seule personne, mais il est pour tout, il est déterminé à toute l'Église, à tous ceux qui, dans ces jours, écoutent les paroles des promesses divines et les croient de tout leur cœur, doivent recevoir et expérimenter ce que Dieu a promis dans sa parole. Le Seigneur a utilisé des individus pour apporter le message, mais il a toujours utilisé beaucoup de personnes pour que sa parole soit accomplie en eux. Vous savez, Jean-Baptiste était aussi une seule personne. Et subitement, il pouvait dire, j'entends le cri de joie de l'épouse. Il avait conduit au Seigneur un peuple bien disposé. Il avait pu le faire. Et il disait, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux se tient à côté de lui et écoute le cri de l'épouse. Ça, c'était déjà l'évangile. Un Jean Baptiste qui avait bâti le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament parle déjà de l'époux et de l'épouse. Par son ministère, il a appelé des hommes à sortir qui étaient des âmes de l'épouse et qu'il pouvait ensuite conduire à l'époux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, dont il avait préparé son chemin. Et ça aussi, nous l'avons souvent dit en insistant, un homme de Dieu ne sonne pas de sa propre trompette et ne prépare pas non plus un chemin pour lui-même. Chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu qui a à exécuter un ministère a été envoyé pour préparer au Seigneur le chemin, son chemin, le chemin du Seigneur, et par l'annonce de la parole de Dieu, conduire le peuple en relation avec son Dieu et que un accord ait lieu entre Dieu et l'Église et que avec cela, un accord soit entre Dieu et son peuple dans sa parole. Pas entre ce que toi, moi et d'autres personnes disent, mais entre ce que Dieu a dit dans sa parole et avec son peuple. Et quand nous lisons concernant le jour du Seigneur, et ça c'est notre sujet, alors Pierre écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. 2 Pierre 3, verset 10. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent du jour du Seigneur. Et je suis reconnaissant à Dieu de ce que nous n'avons pas ces versets bibliques seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi nous les trouvons dans le Nouveau Testament concernant le jour du Seigneur. Nous venons maintenant à cette parole qui vient d'être lue, mais je voudrais d'abord aller dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, avant de revenir à ce que nous avons lu comme introduction et montrer ici, ça concerne aussi la fin des temps. 1 Thessaloniciens 4, ici l'enlèvement est décrit et au dernier verset, il est écrit, verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et vous savez, si vous lisez à partir du verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, que ici, ça traite seulement le sujet que le Seigneur reviendra et que les morts en Christ ressusciteront et que nous serons transformés et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ici, maintenant, cela rentre en relation avec ce grand événement que nous attendons tous. En relation avec cet événement, suit l'exhortation. Et nous devons faire très attention ici. Au chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Nous avons hier soir lu une grande partie de ces versets bibliques et ici il nous est dit encore plus clairement que quand ils diront paix et sûreté et il n'y a pas eu un temps dans lequel il y a tant de conférences de paix et de sûreté comme justement dans notre temps. Et cela va venir à ce point où un semblant de paix sera conclu. Une apparence de paix sera conclue. Et quand cette paix et cette sûreté sera proclamée et qu'on pourra dire maintenant, tout est en sûreté, tout sera en sûreté, tout est sous le contrôle, tout est prévisible. L'un sait tout sur l'autre, mais les deux ne connaissent rien du plan de Dieu. À quoi est-ce que ça sert à ces deux s'ils savent tout l'un sur l'autre, s'ils ne connaissent rien du plan de Dieu? C'est-à-dire que aussi en cela, les Écritures trouvent l'accomplissement dans ces jours. Partout, toi trouveras l'accomplissement quand ils diront paix. Maintenant règne la paix en allemand et la sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont sûrement point. Nous remarquons que ces choses maintenant sont en train de s'accomplir. Et c'est vraiment seulement une question de temps. Et Dieu peut déjà aujourd'hui donner à l'un et à l'autre dans le cœur. Rassemblez-vous, asseyez-vous ensemble et il donnera encore au troisième dans le cœur. Laissez l'homme là-bas habillé en blanc venir s'ajouter à votre réunion Et alors c'est lui qui va proclamer la paix et qui la bénira pour que le monde entier puisse aussi vraiment le croire. Si aujourd'hui on peut déjà le saisir ou pas, c'est ainsi que ça va venir. On ne va pas faire confiance aux politiques, mais aux grands politiciens qui, n'est-ce pas, ne se fait pas voir en tant que politicien, en public, comme ça, ouvertement. Les gens, pour ne pas que les gens le remarquent. Mais c'est. Mais la politique est faite derrière le rideau et tout est caché. Et personne ne regarde derrière le rideau, pas un seul. Tout est caché derrière ça, derrière le rideau. Mais maintenant, écoutez, et ça, je ne l'ai pas seulement dit ainsi, je le crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à le dire. Et maintenant, je regarde à 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Ici, il est écrit à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunification avec lui, nous vous prions, frères, notre union avec lui, une réunion en allemand, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit ici? Ici, il est parlé de l'avènement du Seigneur, de notre union avec lui, notre rencontre avec lui, et ensuite, à lier avec cela, l'exhortation sérieuse est faite. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Si quelqu'un pense à avoir une révélation de l'Esprit, que le jour du Seigneur est déjà arrivé, alors on peut lui dire, bien-aimé ami, d'abord, il faut que cette écriture-là, ces écritures-là trouvent leur accomplissement, aient trouvé leur accomplissement. Et quand le jour du Seigneur viendra, alors on n'a plus besoin de l'annoncer. Le feu du jugement et de la colère, la fureur de Dieu va annoncer très clairement ce jour, ne t'inquiète pas. Personne n'aura besoin de le décrire, oui ou non. Car c'est ainsi que c'est écrit. Mais il y en a bien sûr des gens qui savent toujours mieux les choses que tout le monde. Ils savent même que l'enlèvement a déjà eu lieu sans que ce soit accompli ce qui est écrit, que deux seront en train de mouler en une mule, deux dans un lit, deux dans le champ. Oh, si on pouvait comprendre cela une fois, qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler des choses de Dieu, car notre intelligence est enveloppée d'obscurité. Nous devons laisser parler Dieu lui-même et écouter ce qu'il a à nous dire. Il n'y a pas une autre possibilité. La vérité, il n'y a pas une autre possibilité pour garder vérité avec vérité. Il dit au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler. Ici, il a même parlé, même ici, le bon sens à sa place. Le bon sens, on peut bien avoir le bon sens, réfléchir, être sobre et savoir avec du bon sens que avant que le jour du Seigneur arrive, il faut que cela et cela s'accomplisse. Avant que l'enlèvement ait lieu, il faut que ceci et cela s'accomplisse. Donc ici, il faut avoir un bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Maintenant, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, en allemand l'homme qui transgresse la loi, le fils de la perdition. l'adversaire. Verset 4, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On pourrait maintenant continuer à lire. On voit que ces choses doucement prennent forme. Autrefois, ça n'avait jamais apparu comme ça, visiblement. Mais ces derniers temps, on remarque que la plateforme est prise du monde, la plateforme du monde. Pas seulement quelque part dans un état, quelque part comme ça, mais que cet homme maintenant sort et apparaît en public. Et nous allons remarquer cela, observer cela. Il y a deux choses particulières. D'un côté, le peuple d'Israël et ce qui se passe là-bas, que nous puissions l'observer. Et d'un autre côté, et là aussi nous faisons aucun mystère, nous devons aussi faire attention à tout ce qui se passe dans le domaine religieux. Et comment est-ce que cette blessure-là se guérit? Et comment est-ce que les bras sont ouverts pour tous, mais pas pour l'Église du Dieu vivant? Nous allons aller dans les bras et venir dans les bras de celui qui les a grands ouverts sur la croix pour nous recevoir. Il est dit ici, au verset 8, « Et alors paraîtra l'impie, le transgresseur de la loi, l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pas des signes et des prodiges et des miracles de vérité en tant que confirmation de la parole de Dieu, mais des miracles, des signes et des prodiges de mensonges. Et s'il y a quelqu'un qui émet de la puissance, nous savons qui c'est. Ces puissances de Satan, tous ces prodiges de mensonges, miracles mensongers. Et les hommes tombent dans ce piège, qui n'ont pas cru à la vérité. Nous l'avons déjà dit en insistant ce matin. Des bien-aimés frères et sœurs et amis précieux qui sont dans les églises et des communautés, qui vont dans des chemins égarés parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure de leur visitation de grâce divine. Et ils pensaient que là, c'est un homme qui a apparu. Et ils ne savaient pas que cet homme était un homme envoyé de Dieu avec un message adressé au peuple de Dieu pour appeler à sortir de tout, de la Babylone, la confusion de ce temps, et pour ramener de nouveau à la parole de Dieu. Je suis tellement reconnaissant de ce que là il est écrit. Voici, je vous envoie le prophète Élie. Il n'y a aucun prophète qui impressionnerait plus que le prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a fait dans son temps? Une Jézabel et tout était allé de travers. Tout le peuple d'Israël s'était retiré, avait dévié. L'autel de Dieu avait été détruit et chacun faisait ce qu'il voulait. Et là, la parole du Seigneur est venue au prophète Élie et il a rebâti l'autel du Seigneur. Il a pris les 12 pierres et ensuite il a placé le bois là-dessus. Vous connaissez tous l'histoire. Et c'est ainsi que frère Branham, ici, a repris l'enseignement des 12 apôtres, l'annonce de la parole de Dieu, originelle, inspirée par Saint-Esprit. Il a rétabli sur le chandelier. Et nous n'allons pas être satisfaits, pouvoir être satisfaits, jusqu'à ce que nous puissions recevoir la même chose et recevoir, expérimenter la même chose que nos frères avaient au commencement, jusqu'à ce que nous ayons ce qu'ils avaient au commencement. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas se changer. Il reste fidèle à ta parole. Mais dans ce contexte, il est bien sûr écrite cette exhortation importante à partir du verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est pour cette raison donc aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, 2 Thessaloniciens 2, verset 11 maintenant. Afin que, au verset 12, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Ça, c'est une parole très sérieuse. Et cela est toujours encore écrit en relation avec le jour du Seigneur, avec le retour de notre Sauveur, en relation avec notre union avec lui, en relation avec l'avènement de notre Seigneur, en relation avec la grande apostasie, avec la manifestation de l'homme impie et transgresseur de la loi. Et si des hommes ne croient pas Dieu et ne prêtent pas l'oreille à l'annonce d'un vrai prophète, alors ils vont devoir croire au diable et prêter l'oreille aux faux prophètes. Voilà comment sont les choses. Il n'y a pas un chemin possible entre ces deux chemins. La décision doit être prise. Et frère Branham l'a dit très clairement dans ces deux prédications. Il a exprimé que le sceau de Dieu est la marque de la bête. Il a parlé de ces deux choses. Et il a dit très clairement, tous ceux qui ne croient pas, vous pouvez vous-même l'écouter et le lire, reçoivent la marque de la bête. Mais tous ceux qui de tout leur cœur croient seront scellés du Saint-Esprit. Et nous appartenons à ceux qui ne croient pas de leur tête, mais qui croient de tout leur cœur. Est-ce que ça est ainsi? Parfois, il y a des pensées qui nous viennent dans la tête, ça nous le savons tous. Mais je vous demande, s'il vous plaît, qu'une fois vous fassiez la différence des choses et que nous ne soyons pas toujours en train de suivre les pensées de nos têtes et suivre les pensées que nous avons dans nos têtes. Les pensées que nous avons dans nos têtes ne sont pas la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu révélée est dans notre cœur. Ça, aucun homme ne peut plus nous l'ôter. C'est ainsi comme c'était avec Abraham. Et vous savez aussi que Caïn, qui en fait était un mélange, il est le premier qui a été marqué d'une marque. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, il venait de cette fausse inspiration du serpent. Il a été marqué. Et la plupart n'ont même pas exactement compris de quoi il s'agissait là. Pas seulement d'une connaissance, mais vraiment de beaucoup plus que ça. Seulement ceux qui sont déterminés pour le diable parce que ils sont venus de son inspiration, ils recevront aussi la marque de la bête. Tous les enfants de Dieu seront scellés du sceau du Saint-Esprit. Nous devons de tout notre cœur croire à ça pour que cela puisse aussi avoir lieu. Peut-être que nous allons encore parler de ces choses, de cela. Avons-nous, jusqu'à maintenant, assez clairement pu exposer cela, que le jour du Seigneur n'est pas déjà, ne pouvait pas déjà être là il y a 2000 ans d'ici, mais que le jour du Seigneur viendra quand le temps de la grâce sera venu à sa fin. C'est là que la fureur, la colère, la rétribution, alors que les jugements de Dieu frapperont la terre, cette terre. Et après le temps de la grâce, et nous l'avons lu dans la parole d'introduction, vous n'êtes pas déterminés pour le jugement, c'est ce que nous avons entendu dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Ici, il est écrit au verset 8. Mais nous qui sommes de jour, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous cela tous? Que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, à ce temps où les coupes de la colère de Dieu seront renversées et les jugements terribles viendront sur la terre, redoutables. Assez souvent, de la bouche de frère Branham, nous l'avons entendu, les deux exemples du temps de Sodome et aussi du temps de Noé. Avant que le jugement puisse venir du temps de Noé, il fallait qu'il entre dans qu'il soit entré dans l'arche. Avant que le feu tombe sur Sodome et Gomorre, Lot a été appelé à sortir. Et le Seigneur lui-même l'a dit, tel que c'était autrefois, c'est ainsi que ce sera de nouveau. Dieu ne nous a pas déterminé à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, « Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. » Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? Au temps du soir, la lumière devait paraître. Autrefois, l'Esprit de Dieu a conduit nos bien-aimés frères Pierre et Paul. Il les a inspirés et il les a conduits, touchés à écrire ces choses pour notre temps. Il devait écrire pour notre temps, pour que dans notre temps maintenant, nous ayons une orientation divine dans ces derniers jours. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Ici, il est parlé du retour du Seigneur et de tout ce qui est en relation avec son retour. Et nous sommes, et cela a été écrit il y a presque 2000 ans d'ici. Oh, comme notre Dieu est bon. Pour lui, oui, il est sage, il n'y a pas de désignation pour lui. Il est glorieux, il est merveilleux. Il n'a rien oublié. Il a dit, vous, bien-aimés frères, vous pouvez dans toute, donc étant détendu, vous pouvez aller à la rencontre de ce jour. Car avant que ce jour arrive, je vous envoie le prophète Élie. Il rétablira toutes choses dans l'état primitif. La parole de Dieu va briller comme une lumière. Oui, elle sera révélée. Et à ce moment où la parole de Dieu nous est révélée, alors est lui comme une lumière qui brille, une parole qui par le Saint-Esprit ne nous a pas été éclairée, ne produit encore aucune lumière. Beaucoup lisent les Saintes Écritures. Est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas la même Bible que nous avons? Des millions lisent la même parole, les mêmes chapitres. Pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas? Parce que le jour et l'heure dans le jour dans lequel nous vivons est le programme de Dieu et le programme divin et l'envoi divin, ils n'ont pas reconnu. Ils passent à côté de cela comme c'était le cas lors de la première venue du Seigneur. Et déjà, nos cœurs sont déjà reconnaissants de constater cela. Pas que nous voulions nous élever au-dessus des autres, que cela soit loin de nous. Non, cela soit loin. Au contraire, cela nous prosterne, nous courbe dans la poussière et la cendre. Mais nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a donné une orientation dans ces jours. Et je suis reconnaissant de ce que frère Branham pouvait dire. Si une fois j'ai annoncé quelque chose et que cela ne s'est pas accompli, alors je veux en tant que faux prophète être. Je veux donc être désigné de faux prophète. Dieu a été avec lui et Dieu lui a révélé toutes ces choses et lui a annoncé toutes ces choses. Et je pense que le Seigneur nous a aussi secourus. D'une manière si merveilleuse, lier tous ces versets bibliques qui traitent le même sujet. Et devant nous, il y a tout le programme de notre Dieu pour son Église dans ces derniers jours est révélé. Le peuple de Dieu est le peuple le plus informé sur terre. Et nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur pour cela. Sûrement que nous pourrions encore continuer à lire d'autres écritures. Mais vous savez que quand trois fois, en un seul jour, on a à servir avec la parole, on peut aussi une fois arrêter. Donc, arriver à la fin. Que le nom du Seigneur soit loué. Que ces paroles précieuses dans nos cœurs puissent être tombées. Que nous puissions les repasser et remercier le Seigneur pour cela. Et lui dire, Seigneur fidèle, tu nous as fait grâce. Nous pouvons, dans ta lumière, dans ta parole révélée, reconnaître tous les contextes des choses. Et pour cela, nous devrions rendre grâce à notre Dieu. Et cela de tout notre cœur. Est-ce que vous pouvez tous comprendre que frère Branham, réellement, était le prophète qui devait venir avant le jour redoutable, terrible de l'Éternel pour, à l'Église du Dieu vivant, révéler tous ces versets bibliques et nous appeler à sortir pour que nous puissions être préparés pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur. Si vous croyez cela de tout votre cœur, si vous pouvez le croire, dites à haute voix Amen. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Frère Rousse, veux-tu bien venir? On va remercier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, pour ta précieuse parole, Seigneur, pour ton plan que tu as eu. Nous te remercions pour tes serviteurs, pour ton prophète, pour tes prophètes, pour les apôtres, pour lesquels tu as parlé, de ce qu'aujourd'hui, cela est une aide pour nous en toutes choses. Nous ne savons pas à tel point nous devrions te louer, t'exalter, t'apporter la louange, la reconnaissance, mais de tous nos cœurs, nos bouches, oh, que nous puissions te louer avec tout ce qui est en nous, t'exalter, te rendre grâce, car tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, Tu es notre sauveur. Tu reviendras nous prendre dans ta, pour aller dans ton royaume, dans ta gloire. Mon cœur se réjouit et mon âme exalte dans le Seigneur. Mon Dieu, alléluia. Oh, loué et gloire, honneur et adoration pour toutes ces paroles précieuses de vérité qui nous ont été lues et que nous avons reçues dans nos cœurs. Nous t'adorons, louons ton merveilleux nom. Oh Seigneur, tu as fait de grandes choses et tu feras encore de grandes choses. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu as donné ta parole, les promesses, et tu les accomplis, Seigneur. Tu enseignes ton peuple. Seigneur, comme par Daniel, tu as dit que dans les derniers jours, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Et nous nous réjouissons. Et que tu as ouvert l'intelligence pour nous. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront ces choses. Loué et exalté sois-tu jusqu'à dans toute l'éternité. Alléluia. 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 De tout mon cœur s'élève un chant. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Que tu es grand, que tu es grand. Alors de tout mon cœur, se lève un chant pour toi. Que tu es grand. Que tu es grand. Alors de tout mon cœur. Alors tout mon cœur t'exalte. Ô toi grand roi. Que tu es grand. Que tu es grand.